Il est 12h, passé de 34 minutes, vous êtes toujours sur RCJ. C'est l'heure de l'invité politique du jeudi. Philippe Méché reçoit le député Les Républicains de l'Aube, Nicolas Duic. Bonjour Nicolas.
Bonjour, Duic. Merci pour votre invitation.
C'est nous qui vous remercions de l'avoir accepté. Bonjour Philippe Méché.
Bonjour Jonathan.
Je vous laisse le micro.
Eh bien bonjour Nicolas Duic, vous êtes député Les Républicains de la première circonscription de l'Aube, comme vient de rappeler Jonathan. Vous êtes également maire de Brienne-le-Château et nous vous remercions d'avoir accepté cette interview sur RCJ. Alors on va parler de politique intérieure, bien sûr, puisque vous êtes député Les Républicains engagé dans la campagne de François Fillon, mais aussi nous avons parlé de politique étrangère, car vous avez effectué un déplacement en Syrie au mois de janvier, donc très récemment, en compagnie de Thierry Mariani et de Jean Lassalle, je crois. Donc pour commencer par là, qu'est-ce qui vous a conduit à aller en Syrie? En gros, quel était l'objet de votre déplacement?
D'abord, c'est parce que je pense que le sort du monde et l'avenir de la civilisation se joue là-bas, parce que les Syriens sont confrontés à une abomination absolue. Je les appelle exprès les impies, parce que ce sont des gens qui ne respectent aucune création, aucune liberté, qui veulent transformer les femmes en esclaves, et que le peuple syrien connaît depuis 6 ans la guerre. Et puis, je m'étais fait une promesse lors de mon deuxième voyage là-bas, parce que c'était le troisième séjour, c'est d'aller à Alep pour voir Alep libérée. Et à chaque fois, médecin d'origine, je garde en moi ces images fortes des enfants à Damas, à l'hôpital français, qui avaient reçu un obus des islamistes, les fameux Robert le Modéré, dans la cour de récréation, parce qu'ils tirent exprès le matin et le soir quand les enfants sont à l'extérieur pour faire un maximum de victimes. Et vous avez extrêmement mal au ventre quand vous entendez les médecins et les infirmières qui vous disent « on n'a même pas assez d'alcool pour soigner les blessures ».
Mais quand vous dites Alep libérée, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des rebelles, comme vous dites, qui étaient peut-être radicalisés, mais on dit aussi qu'il y avait des opposants à Bachar el-Assad modérés.
Je pense que ça fait partie de la propagande, j'ose le dire, sur laquelle nous sommes soumis en permanence. L'histoire syrienne, c'est au départ la sortie du système du parti Baas, et tout le monde connaît les travers et le fonctionnement du père de Bachar. Je pense que Bachar a essayé réellement de moderniser l'économie de son pays. Et comme quand vous essayez de libéraliser une économie, de la moderniser, les premières victimes ont été les classes populaires dans les périphéries des grandes villes et les zones rurales. Et ces gens ont été très travaillés par les instruments de propagande payés par les États du Golfe pour leur dire « Mais regardez, dans le Golfe, ils ne sont... » contre eux, contre musulmans sunnites wahhabites en fait, et ils sont riches, tout va très bien. Donc soyons uniquement nous, éliminons tout ce qui est étranger, et lorsque la révolte a commencé, les agents d'influence islamiste se sont mêlés à la foule et ont tiré sur les policiers pour engendrer une réaction violente. Donc je pense que la réalité est plus compliquée que celle qu'on nous a décrite, et qu'en tout cas, quand je vois un journaliste syrien qui fait partie de la minorité ismaélienne, c'est-à-dire cette minorité chiite qui me dit, moi c'est la fameuse armée syrienne libre qui est venue décapiter ma famille, lorsque vous écoutez les Alépins qui vous racontent ce qu'ils ont réellement vécu, vous voyez un décalage terrible entre l'histoire qui vous est racontée ici et la réalité du terrain.
Vous y avez rencontré qui en Syrie dans votre déplacement? Bachar el-Assad?
Alors nous avons vu pour la troisième fois Bachar el-Assad, mais nous avons surtout vu aussi les confrères à Alep, le CHU, un hôpital privé. Nous avons rencontré un prêtre évangéliste dont l'église a été dynamitée par les fameux rebelles modérés. Vu la mosquée des Omeyyades, qui était magnifique, où on peut rappeler à nos auditeurs que le minbar, c'est-à-dire la chair, a été volé dans les 2 premiers jours, qui était le commanditaire. Ces gens volent, pillent, détruisent. Il y a eu au moins 18 000 morts liés au bombardement des islamistes qui occupaient la partie est de la ville. Les snipers tiraient exprès sur les enfants, parce que quand vous tirez sur un enfant, vous savez qu'automatiquement les adultes vont venir le secourir, donc ça fait plus de victimes. C'est vraiment épouvantable ce que ces gens...
Alors comment vous réagissez? Parce que dans votre parti, bon, votre opinion est assez, je dirais pas isolée, mais enfin, beaucoup de gens, effectivement, décrivent Bachar el-Assad comme un boucher, comme quelqu'un qui a anéanti une partie de sa population, 300 000 morts, je crois, ce jour, en tout cas, ce qui est recensé Voilà, comme vous dites, effectivement, c'est difficile d'avoir une comptabilité sur le sujet. Comment ils réagissent, les autres députés, les autres élus républicains, quand ils voient ce déplacement qu'ils ont plutôt officiellement désavoué?
C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand vous citez les chiffres, c'est intéressant de voir que dedans, on inclut les morts de l'armée syrienne. Donc on ne peut pas imaginer que Bachar tue ses propres soldats. Donc rien que ce chiffre montre bien la contradiction interne qu'il y a dans les raisonnements qui nous sont tenus ici. Et la question que vous posez est très intéressante, parce que je pense que les Françaises et les Français ont besoin d'avoir des parlementaires libres. Ils ont besoin d'avoir des parlementaires qui soient suffisamment formés, et j'ose le dire, avec un minimum de culture pour les représenter et porter une vision libre. Le drame que nous vivons, c'est que vous avez de moins en moins d'élus qui comprennent et qui sont capables de faire de la pédagogie et de faire comprendre aux gens que ce qui se passe à l'extérieur concerne notre quotidien. Parce que réellement, la liberté que nous avons dans ce pays, la paix que nous avons, elle est très liée à ce qui se passe là-bas et ce qui se passe à l'extérieur des frontières.
Et alors, on a dit évidemment Bachar el-Assad est soutenu par les Russes. Quel est le rôle exact des Russes dans ce pays, en Syrie?
Alors il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, la Russie a des intérêts en Syrie, puisque dans l'histoire de la Russie, le grand problème, c'est l'accès à la mer et à la mer libre. Et vous savez que c'est l'un des grands soucis économiques de la Russie, qui est un pays continental immense. Une tonne de marchandises transportées par voie maritime coûtera toujours moins cher qu'une tonne de marchandises transportées par voie terrestre. D'où les difficultés gigantesques pour développer l'économie de ce pays. La Russie a donc une base navale à laquelle elle tient. Et on peut comprendre, chaque pays défend ses propres intérêts stratégiques. Mais deuxièmement, la Russie a dans ses reins l'islamisme auquel elle est confrontée en Tchétchénie et ailleurs. Vous avez eu les attentats de Beslan dont personne ne parle ici, où les islamistes ont sciemment pris une école. C'est le même traitement que vous avez, où je pensais à cela ce matin puisque je venais vers vous, où je suis toujours agacé de voir que dans les médias ici, on vous montre jamais les enfants manœuvrés en Palestine qui vont se faire sauter avec des pains de plastique. Et on vous montre toujours le soldat israélien comme le méchant. Mais là, on a le même système, c'est-à-dire qu'il est décidé que Bachar el-Assad est un mauvais, donc il faut l'éliminer. Et sur l'intervention russe, les Russes sont intervenus au moment où l'armée syrienne craquait. Et eux, ils comprennent que si l'armée syrienne craquait, c'est un flot de sang. Toutes les minorités sont massacrées, alaouites, chiites, druzes, la majorité des sunnites syriens, parce que l'islam là-bas n'a rien à voir avec la propagande que nous avons ici. C'est un islam essentiellement d'inspiration soufie. La Jordanie et Israël, et puis nous, parce que la Méditerranée est un lac. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'avenir de la civilisation. Ils interviennent donc pour ces deux raisons. Leurs raisons propres, stratégiques, qu'on peut comprendre, et les raisons parce qu'eux, ils ont compris que c'était une guerre contre le wahhabisme. Parce que la guerre que nous voyons, c'est une guerre au sein du sunnisme. Entre cette tension historique depuis des siècles, entre un pôle qui est un pôle qui veut interpréter de manière métaphysique le Coran comme un dialogue entre Dieu et le prophète, entre Dieu et l'homme, et ceux qui veulent une interprétation littérale, cette secte, vous le savez bien ici, qui est née au XVIIIe siècle, qui veut une interprétation littérale et qui veut qu'une loi ou des règles érigées au VIIe siècle aient valeur encore au XXIe siècle de manière littérale, comme l'héritage pour les filles dans la deuxième sourate.
Oui, mais il reste quand même, évidemment, on le voit avec nos yeux d'occidentaux, le fait que Bachar el-Assad est un dictateur, ça on ne peut pas le nier, et que comme tout dictateur, il y a personne, enfin il a éliminé toute opposition autour de lui.
Je pense que c'est le père qui a mis en place le système, que lui c'est un garçon qui a été formé par une culture française puis britannique. Je vous rappelle qu'il est médecin et qu'il était à Londres. Il n'était pas destiné à régner en quelque sorte. C'est le frère qui est mort dans un accident de voiture, et je pense que les Syriens sont assez contents que le frère soit mort dans un accident de voiture, parce qu'il était très violent, brutal et irresponsable. Donc là nous avons quelqu'un qui est intelligent. Nous avons quelqu'un qui est intelligent, qui fait la guerre depuis 6 ans, et je peux vous dire que les soldats syriens, ils se battent pour la patrie syrienne, parce qu'il y a une nation syrienne, il y a un sentiment patriotique syrien, et les Syriens sont très choqués aujourd'hui qu'on les décrive d'abord par leur appartenance ethnique ou religieuse. Tous les Syriens que j'ai rencontrés, quelle que soit leur confession, vous disent « je suis syrien » avant d'être druze, avant d'être alaouite. Alors je pense que vous avez des discussions par exemple sur les druzes qui sont très intéressantes. Moi j'ai vu une émission de la télévision israélienne, je me souviens un soir, qui m'intéressait sur ces officiers druzes dans le Sahel, parce que les druzes ont une religion initiatique, métaphysique, où dans leur doctrine, on sert le pays dans lequel on habite. Tout ça est très intéressant. Les Alaouites, c'est extrêmement intéressant, qui prient à la maison, qui ne prient pas à la mosquée, qui rêvent vers la Vierge, qui rêvent vers la vigne. Donc on voit bien qu'en Syrie, vous avez cette chose extraordinaire de fusion, de nuance entre les religions.
Eh bien, on va peut-être en venir à la présidentielle.
Oui, juste après avoir fait un top horaire, comme on dit, il est 12h44, et votre invité, Philippe Méché, le député Les Républicains de l'Aube, Nicolas Duic.
Oui, merci Jonathan. Nous venons parler de la Syrie assez longuement, puisque c'est tout à fait intéressant compte tenu de votre déplacement en Syrie. Venons-en à des choses un peu plus gallocentriques, hein, si je puis dire, finalement, qui paraissent beaucoup plus minces, en tout cas avec moins d'enjeux de vie, qui est la présidentielle. Alors, vous êtes député Les Républicains, vous soutenez François Fillon. Pourquoi se le cacher? La droite et le centre ont réussi une belle primaire, c'est vrai, 4 millions de votants. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la mauvaise passe. Mauvaise passe due à ce qu'on appelle l'affaire Fillon, le pénal. L'upgate, bref, tout ce que vous voulez. Autour de 18% à 20% d'intention de vote aujourd'hui pour François Fillon, ça bouge assez peu, mais c'est vraiment très peu. Est-ce que François Fillon peut remobiliser l'opinion? Et sur quoi, bien sûr?
Personnellement, je l'espère. Pourquoi? Parce que je l'ai soutenu par rapport à la politique étrangère, qui pour mon avis, est un axe essentiel et structurant de l'avenir, ne serait-ce que pour que la France reprenne pied dans le monde et que nous ayons des emplois à l'exportation qui soient offerts à des ouvriers et des ingénieurs français. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous pouvons séparer deux choses? D'abord, l'utilisation par quelqu'un qui est en politique depuis 20 ou 30 ans de toutes les ficelles pour maintenir un train de vie, et de l'autre, l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est là la clé de l'élection. Parce que tous les autres programmes me semblent totalement inapplicables en matière économique. Quel que soit le respect que je porte aux personnes, le programme qui est porté par M. Mélenchon, M. Hamon, Mme Le Pen et même M. Macron me semble totalement irréaliste et inapplicable. Pour les premiers, parce que ce sont des dépenses supplémentaires, et pour le second, parce que c'est une philosophie politique ultralibérale que je ne partage absolument pas.
Vous parlez d'Emmanuel Macron.
Oui, parce que la question est là, c'est quel type de société nous voulons? Quelle place de l'homme dans la société? Est-ce que nous voulons un individu tout puissant, sans racines, sans patrie, sans métaphysique, livré uniquement aux forces du marché? Est-ce que nous voulons une société où on va considérer que certains seront dignes de travailler et pas les autres? Est-ce que nous voulons une société où on aura encore le droit de parler de transcendance et de religieux dans l'espace public? Est-ce que nous voulons une société où la France aussi reprenne sa place dans le concert des nations? Or, l'élection de M. Trump est une opportunité extraordinaire pour la diplomatie française. Si elle retrouvait une position gaullienne, un, sur le continent européen, nous avons une Allemagne qui est extrêmement puissante, qui devient extrêmement dominatrice en matière économique. Je pense que si la France, un, renoue un partenariat fort...
Ça, c'est plutôt dû à l'effacement de la France. C'est peut-être pas ce que l'Allemagne demandait. Je suis pas l'avocat.
Non, mais l'Allemagne, elle joue son rôle de puissance, comme tout État. Mais le coup franco-allemand, à mon seul sens, la manière de le recréer, c'est quand la France noue des partenariats. En matière de défense, avec le Royaume-Uni, et en matière économique, avec la Fédération de Russie. Et à ce moment-là, l'Allemagne revient. Mais aujourd'hui, elle est tellement puissante que si les politiques français lui courent après, elle n'en a plus besoin.
Oui, mais vous parlez par exemple de la Russie. Alors la Russie, dans les liens qu'on peut avoir, c'est un pays qui a de l'influence, on a parlé d'ailleurs sur cette antenne, mais question puissance, c'est quand même pas tout à fait ça. Le PIB de la Russie est inférieur à celui de l'Italie.
Mais bien sûr, parce que on l'évoquait tout à l'heure, là, il faut voir d'où vient la Russie, à la fois de ces dizaines d'années de communisme, à la fois le prix humain de la Grande Guerre patriotique contre le nazisme, 26 millions de morts. Moi, je suis président, comme vous savez, aussi d'un autre pays, un groupe d'amitié qui est la Biélorussie. Un tiers des gens sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre d'extermination,
oui,
merci.
Ma question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire, comme vous dites, des rapprochements pour avoir faire du commerce avec la Russie qui,
oui, je vais répondre précisément à votre question. Un, parce que nous avons besoin de matières premières, parce que nos économies de pays dits développés sont très fragiles, et les matières premières que je vise, elles sont en Sibérie. Et je ne veux pas qu'on les laisse aux Chinois.
C'est le gaz, donc, en particulier.
Pas que le gaz, les métaux rares, par exemple, auquel il faut penser pour vos téléphones portables, même pour le moteur des éoliennes. On a besoin sur certaines pièces de métaux rares. Donc nous avons besoin de ces matières premières. Nos économies occidentales sont très fragiles dans ce domaine. Deuxième point, parce qu'il faut créer des partenariats en matière agricole, par exemple. Il y a d'énormes demandes. Et quelle est l'agriculture sur le continent européen qui est la meilleure en génétique animale, en nutrition animale, si ce n'est l'agriculture française? Qui paye le prix des sanctions?
Mais est-ce que dans ce cas-là, ça ne vaudrait pas plus le coup d'avoir des liens commerciaux davantage affinés avec la Chine, qui offre quand même un marché énorme, immense, qui a des moyens? On voit bien d'ailleurs que les Allemands ont une balance commerciale avec la Chine qui n'a rien à voir avec la nôtre, nettement supérieure, plutôt que d'aller vers la Russie, où finalement on va s'approvisionner en gaz, et de toute façon en gaz ou autres métaux, mais de toute façon ils ont besoin de les écouler, donc là c'est nous qui sommes acheteurs. Je parlais plutôt de terres où là on peut être exportateur.
Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions et beaucoup de prétentions des Occidentaux par rapport à la Chine. Pourquoi ? Parce que les dirigeants chinois ne sont pas idiots. Ils ont amené 300 millions de Chinois à un niveau de vie, à mon avis, supérieur au nôtre. Leur objectif, c'est d'en ramener 300 millions supplémentaires. Et les Chinois vont aussi développer et développent leur propre économie de consommation.
Oui, mais il y a un marché quand même.
Oui, mais l'illusion occidentale que les Chinois seraient encore, en quelque sorte, des Asiatiques inférieurs aux Occidentaux, parce qu'ils traînent quand même cette espèce d'esprit de supériorité, qu'on pourrait les inonder de nos produits, c'est complètement faux. C'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Les Chinois sont une population organisée, structurée. Le confucianisme est très important dans la structuration de la mentalité chinoise. Les dirigeants chinois ont un plan à 30 ans. Eux, ils ont une vision à long terme. Et puis, en Sibérie, vous avez un problème démographique majeur. Nous, nous sommes des Européens. Nous avons intérêt à nous allier avec les Russes.
Alors, revenons-en un peu à cette présidentielle. Qu'est-ce qui pourrait faire redémarrer François Fillon? Vous dites son programme est meilleur que les autres, certes, mais ce n'est pas perçu vraiment comme tel. Finalement, de quoi on a parlé une fois la primaire passée? Des 500 000 emplois de fonctionnaires à supprimer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué pour lui d'aller soutenir ça compte tenu de son affaire personnelle. Et deuxième plan, sur également la sécurité sociale, où on a dit c'est n'importe quoi, il va limiter le remboursement. Et ça a fait partie, d'ailleurs, une partie des électeurs. Résultat, on passe d'un François Fillon qui frôlait les 30% à un François Fillon qui aujourd'hui est en dessous de 20. Qu'est-ce qui peut remobiliser l'opinion? Qu'est-ce qui peut, dans son programme, conduire à se dire « finalement, je reviens vers Fillon » ?
Premier point sur la question des fonctionnaires. Au lieu d'exprimer que l'on va recruter simplement 600 000 personnes au lieu de 2 200 000 sur les 5 ans, on a dit on va supprimer 600 000 postes. Donc moi, ma secrétaire de mairie, elle s'inquiète pour son poste. L'infirmière à l'hôpital, elle s'inquiète pour son poste.
Bien sûr.
Donc là, le discours était mauvais. Alors qu'en réalité, nous avons bien 80 milliards d'euros de dettes qui s'accumulent tous les ans. L'ensemble des richesses que les Françaises et les Français créent en une année, qu'on appelle le produit intérieur brut, va être dépassé par la dette que nous avons accumulée. Ça, c'est une attaque à notre souveraineté principale. Donc, je pense qu'il y a un discours à changer en termes de pédagogie. Est-ce que ce sera possible devant la tempête médiatique? C'est la première question. Deuxième question, c'est encore une fois ce que je vous disais. Je ne veux pas d'une société puritaine en France de type nordique. Et vous avez à la fois un conflit moral qui est posé entre la conduite de l'individu par rapport à un système qui l'autorisait à le faire et dans le même temps l'intérêt supérieur de la nation. Moi, j'ai très peur d'un monde de violence.
Ouais, mais vous savez bien comment
j'ai
sont les citoyens.
Très peur d'un monde de haine, bien sûr. Mais c'est la question qui est posée à l'électorat.
Oui.
Est-ce que vous passez par-dessus les imperfections d'un homme pour atteindre un objectif qui est l'intérêt supérieur de la nation? C'est ça la question qui est posée. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce sont les électeurs qui auront la réponse.
Pour l'instant, leur réponse, elle est plutôt négative, puisque effectivement...
Mais elle est surtout d'un grand désarroi. Nous en parlions, et moi, je suis comme vous, pour qui voter? Et ce que je vois, c'est monter un monde de haine et de rejet de l'autre. C'est ça qui m'inquiète terriblement. Et la manière de lutter contre la haine, c'est pas l'angélisme.
Mais vous pensez pas, on finira peut-être cette émission par commenter sur Emmanuel Macron, vous pensez pas qu'il a d'une certaine manière un peu la recette? Emmanuel Macron, on a lu beaucoup de choses d'ailleurs que vous auriez dit sur son compte, y compris le lié ou le biguet, etc. Vous pensez pas que c'est quand même lui finalement qui diffuse un certain optimisme, que c'est sa force? Sa force, c'est d'être quelqu'un, il est jeune, il paraît optimiste, il ouvre les portes, il dit le programme, c'est pas le sujet, c'est la direction qui est importante. Enfin, il le dit pas comme je le dis, il parle de programme, mais c'est la direction. Finalement, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui la recette pour aller conquérir les Français?
Alors, premier point, ce que je dis, c'est je dénonce le discours de M. Berger qui associait le ventre des femmes pour une gestation pour autrui avec la force musculaire du travailleur. Je trouve que c'est l'esclavage moderne, pour moi c'est inadmissible. Deuxième point, le discours que tient M. Macron, c'est un discours de destruction en réalité de l'économie française. C'est-à-dire que c'est la destruction des professions juridiques françaises, des notaires, par exemple, qui apporte une sécurité juridique aux citoyens dans ce pays. C'est la destruction des professions médicales ou paramédicales avec l'entrée des fonds de pension dans les sociétés médicales. Donc c'est l'indépendance des professions médicales qui est en cause. C'est la vision londonienne parce que dans le même temps, il va vous dire une chose juste, il est inadmissible qu'on ne serre pas la main à une femme, mais deux minutes après, il ne comprend pas pourquoi on interdit le voile au travail.
Alors dans ce cas-là, pourquoi il plaît ?
Ma
question, c'est pourquoi il plaît ?
Il plaît parce qu'il est jeune. Parce qu'il est intelligent, parce qu'il a une allure sympathique et parce qu'il a fait une étude de marché très sérieuse pour savoir quels étaient les thèmes que les Français voulaient voir abordés pendant la campagne présidentielle et quelles étaient les réponses. C'est un pur produit marketing.
Oh, c'est comme ça qu'on fait une campagne, en principe. On regarde un petit peu.
On
regarde l'offre.
Pour moi, ça fait partie des dangers qui nous menacent.
Ouais.
L'affaiblissement de la pensée, l'affaiblissement du langage avec un vocabulaire toujours réduit. Et en France, nous avons la chance d'avoir un vocabulaire riche pour exprimer nos sentiments. Et c'est le drame. Pourquoi avez-vous la violence ? Une des causes de la violence, c'est quand vous avez des jeunes qui n'ont que 300 mots pour s'exprimer, c'est l'agir qui remplace. Moi, ça m'effraie terriblement, ce monde.
Oui, mais vous niez pas quand même qu'il faut toujours une part de rêve dans une campagne électorale, à
bien
la
sûr.
Fois des mesures qui tiennent une part de rêve, et que finalement, Macron offre ce rêve là où Fillon
ne l'offre
pas.
Mais Emmanuel Macron, si sympathique soit-il dans sa présentation, est pour moi un pur produit marketing, qui ne pourra que décevoir les gens qui voteront pour lui, qui à mon avis seront les premiers à manifester dans la rue, dès qu'il s'il a une majorité parlementaire, ce qui reste encore à démontrer si jamais il était élu, il y a une contradiction terrible.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous, au plaisir.